Ce soir, je vous propose un alter regard sur l'open data. On parle beaucoup d'open data, mais qu'est-ce que c'est? Quel intérêt pour les citoyens? À partir de l'open data, mon invité pose la question de la démocratie. L'ouverture de données, d'ailleurs, est-ce qu'on doit dire des données ou de la donnée, puis à son plus global, mon invité nous dira. Donc l'ouverture des données serait un élément indispensable à la démocratie. Son livre, Les données de la démocratie, pose des questions. Comment mettre les données ouvertes au service des citoyens? Pourrions-nous remettre en cause l'ordre établi avec l'open data? Comment en faire un outil au service de la démocratie? Donc je vous propose de voir avec lui, bon, tout d'abord ce qu'on appelle l'open data, un peu d'histoire, on a l'impression que c'est tout nouveau mais pas vraiment. D'où ça vient? Le lien avec la démocratie, se pose la question de la régulation. Donc Samuel Goetta, merci d'avoir accepté de participer à mon émission. Donc vous pouvez d'abord vous présenter pour nos auditeurs.
Samuel Goetta, donc je suis le cofondateur d'une coopérative, d'une SCOP qui s'appelle Data Activist, qui accompagne les acteurs publics sur l'ouverture de leurs données, plus largement leur stratégie data. Je suis aussi maître de conférence associé en sociologie à Sciences Po Aix, j'y fais Aix-en-Provence. Et donc je fais mes recherches sur des sujets comme la transparence, évidemment beaucoup d'open data, mais aussi plus largement la data literacy, comment on fait pour que un plus grand nombre de personnes puissent comprendre et se saisir des données, que ce soit pas réservé à une petite élite. Et j'ai aussi une activité associative et militante au sein d'une association qui s'appelle Open Knowledge France. Et on anime notamment un site qui s'appelle madada.fr qui facilite l'accès aux documents administratifs pour tout le monde. Et on a près de 1500 personnes qui l'utilisent. Et c'est vraiment fait pour simplifier ce droit qui est beaucoup trop méconnu, sur lequel je reviendrai juste après.
On revient à la fin en donnant des sites, tout ça, pour que nos auditeurs puissent retrouver. On y revient à la fin, on redira à la fin, n'est-ce pas? Alors, on parle d'open data, d'où ça vient? Parce que moi j'ai vu que ça vous arriviez, enfin j'ai commencé au 18e siècle, mais on peut même commencer avant.
Oui, ça remonte à loin, je pense que ça remonte, pour moi le principe de l'open data, il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 15, qui stipule que la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. À l'époque, ce droit, il était exercé plutôt via des institutions. La première qui a été créée dès le début de la Révolution pour lutter contre l'arbitraire, c'est les archives nationales. Ça a continué aussi avec la Cour des comptes qui, d'une certaine manière, en accédant aux documents, en allant vérifier comment les décisions étaient prises et comment l'argent public était dépensé, continuait cette visée-là. Mais bon, le premier droit, c'était quand même le droit d'accéder aux archives pour lutter contre l'arbitraire. Et il y a eu vraiment une innovation démocratique qui est passée de manière un peu à la fois inattendue et pas forcément très visible en 1978, la loi CADA, comme la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a créé le droit d'accès aux documents administratifs, qui est donc un droit qui permet à tous les citoyens de demander à n'importe quel acteur chargé d'une mission de service public, donc ça peut être des collectivités locales, ça peut être des agences de l'État et même des acteurs qui ont des délégations de services publics, d'accéder aux documents administratifs. Et la définition d'un document administratif est extrêmement large. Ça peut aller évidemment d'une base de données, ça peut aller dans un document, ça peut être aussi parfois une note manuscrite. Dès lors qu'elle est produite dans le cadre d'une mission de service public, elle est communicable. Alors il y a quand même beaucoup de secrets qui sont protégés souvent pour de bonnes raisons, hein, pour la protection des données à caractère personnel, sur les questions de santé. Aussi, y a certaines choses qui sont protégées sur les délibérations du gouvernement. C'est peut-être aussi parfois une limite de ce droit-là, qui fait qu'on l'utilise plutôt a posteriori, une fois que la décision a été prise. On ne peut pas accéder aux documents avant que la décision ait été prise, ce qui limite quand même le pouvoir que ça donne. Mais bon, ça permet de contrôler quand même a posteriori comment les décisions ont été prises. Dans les documents administratifs, on a aussi des algorithmes. On en parle beaucoup en ce moment. Et dans les secrets protégés, il faut aussi avoir en tête qu'il y en a un, c'est le secret des affaires qui pose à la fois beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Peut y avoir des sujets légitimes, mais des fois ça a quand même restreint beaucoup sur des sujets démocratiques. Donc c'est la première filiation de l'open data, c'est le droit à la transparence. Ce que ça change l'open data, c'est le fait de passer d'une logique de la demande, où je vais demander à l'administration de publier ces données, à une logique proactive où l'administration va publier par défaut, par principe, les données qu'elle produit dans le cadre de ses activités.
Alors, vous dites que la transparence, c'est la base du droit à l'information et que donc, on a inversé un petit peu les choses puisque ça doit être publié et non pas forcément demandé. Et donc, dans ce cadre-là, ça nécessite une autre organisation aussi des données.
Ouais, en fait, c'est si on reprend l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on passe de la société peut demander compte à tout agent de son administration à l'administration doit rendre des comptes à la société. Et ça, en fait, ça change un peu la logique parce que et ça correspond aussi aux attentes de plus en plus de citoyens d'avoir des informations plus détaillées et de ne pas se contenter d'une information pré-mâchée. Ce qui change avec l'open data, c'est que pendant longtemps, je prends un exemple, par exemple, les accidents de la route, on avait, sur une commune, on pouvait savoir le nombre d'accidents, les conséquences pour les victimes, on pouvait le savoir à l'échelle de l'année. Maintenant, le ministère de l'Intérieur, depuis 2012, publie la base nationale des accidents corporels de la circulation, c'est-à-dire qu'on sait, pour chaque accident qui a nécessité l'intervention des services de secours, on sait le type de véhicule qui était impliqué, les conséquences pour les victimes, les conditions de circulation, et donc en fait on a accès à et la localisation de l'accident. Évidemment tout ça est anonymisé, on ne peut pas remonter à la personne, mais du coup ça permet de faire plein de choses. Ça permet de contester des décisions, ça permet de remettre en cause bah, par exemple certains aménagements dont on voit qu'ils sont particulièrement accidentogènes. Ça a servi, j'en parle dans l'introduction du livre, à une association avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, je suis plutôt cycliste, mais qui est 40 millions d'automobilistes, qui, lors du passage à 80 km/h, a utilisé les données d'accidentologie sur les trois tronçons test qui ont précédé cette décision. Le Premier ministre de l'époque disait que, Édouard Philippe disait que ça avait eu un bilan très positif pour réduire l'accidentologie. Si on regardait les données, l'accidentologie sur ces trois tronçons test allait rester stable. Et donc ça a permis bah, mine de rien de contester d'avoir des arguments basés sur des données donc, qui avaient quand même un pouvoir rhétorique beaucoup plus fort pour contester cette décision là dont on se doutait qu'elle était politique et aussi bah, pour aussi augmenter les recettes des radars. Mais, et en fait c'est intéressant ce cas là parce que ça montre le potentiel démocratique de l'open data. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un débat qui s'appuie sur des données, où les données ne s'imposent pas forcément à nous, comme c'est quand même souvent dans le débat public, où l'administration et les élus viennent avec toute une ingénierie du chiffre, de la carte, de la donnée, face à laquelle on se sent un peu dépossédé, et qui a un pouvoir rhétorique très fort. C'est-à-dire que bah, si on arrive avec des chiffres et des données en disant bah, « c'est objectif bah, », en fait, si on ne peut pas le contester, si on ne peut pas vérifier, ça a un peu tendance à plier le débat. Et dans une société démocratique, je pense qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer, comme le pouvoir politique s'appuie sur des données, on doit pouvoir avoir ce contre-pouvoir-là, de pouvoir remonter à la source des données. Et ce que ça permet, donc ça permet d'avoir un débat éclairé, de pouvoir proposer d'autres formes d'analyse, et aussi de faire des propositions, d'être force de proposition, de proposer des aménagements, donc avoir un débat public où on a accès à la même matière première de l'information et du savoir, puisque, comme vous l'évoquez en introduction, est-ce que c'est la donnée, les données, peu importe. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt tendance à dire les données, parce que dans l'idée de la donnée, il y a une... Dans l'idée des données, il y a une idée d'agrégation, donc j'utilise plutôt au pluriel, une idée de volume, c'est ce qui va donner la valeur des données. Mais si on revient à la définition des données, les données, c'est la matière première de l'information et du savoir. On a tendance à dire qu'il faut beaucoup de données, pour produire un petit peu moins d'informations et produire un petit peu moins de savoir. Et ce qui va distinguer les données de l'information, telle qu'on l'entend classiquement, c'est que les données, elles vont être plus volumineuses. Si je vous mets si je mets n'importe qui devant une base de données, même d'une petite taille, bah en fait, vous voyez le tableau de données, vous ne pouvez pas en tirer d'informations, vous ne pouvez pas pouvoir comprendre ça. C'est plutôt à destination des machines, les données. Et les données, ça va être quand même la matière première qui va permettre de produire de l'information. Donc on va prendre une grosse base de données, on va voir l'évolution de l'accidentologie sur une période, et on va en tirer une information en disant « elle est restée stable ». Et c'est cette information qui va nourrir le débat public. Par contre, si on a accès, si on peut remonter à la base de données, et qu'on peut produire plein de d'analyses, de visualisations, d'articles, bah en fait, on peut imaginer une société que ça va nourrir le débat démocratique. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, et c'est aussi pour ça que le livre s'appelle Open Data, pouvoir et contre-pouvoir. Si on revient à l'exemple du 80 km/h, il y a des contre-pouvoirs qui s'en sont saisis aussi. Bah, on peut penser aux associations cyclistes qui se sont pas mal saisies ça pour montrer la dangerosité de certains aménagements cyclables. Mais on a aussi le pouvoir qui s'en est servi. Bon, à la fois pour objectiver une décision au début. Bon, là, c'était pas vraiment objectif. Mais a posteriori, justement, si on revient au 80 km/h, passage à 80 km/h, il y a une analyse du CEREMA, qui est donc une agence du ministère de l'Environnement qui analyse beaucoup de données sur ces sujets-là, qui a fait une analyse a posteriori. Si on regarde comme ça l'accidentologie au niveau national, elle a plutôt tendance à augmenter depuis le passage à 80 km/h. Sauf qu'en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé, comme ils avaient accès à ces données dans un grand niveau de précision, ils ont séparé ce qui relève des routes départementales, qui sont passées à 80 km/h, des routes nationales et des autoroutes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur les départementales, l'accidentologie, elle a diminué. Et c'est là où ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que cette décision qui n'était pas vraiment objective au départ, on arrive à l'objectiver a posteriori, et en fait, elle a été utile pour faire baisser l'accidentologie. Et donc, c'est pour expliquer que c'est toujours plus compliqué que ça, et que le fait d'accéder à ces données, ça permet de montrer que cette décision qui peut-être n'était pas prise sur des fondements d'objectivité, je ne dis pas que toutes les décisions doivent être basées sur des données, certainement pas, il y a d'autres arguments qui entrent en ligne de compte, mais ça permet quand même de vérifier, d'en débattre et de reprendre pouvoir sur ça.
Alors, vous faites référence au logiciel libre, qui est une manière de traiter toutes ces données de façon indépendante, j'allais dire.
Ouais, c'est une des autres filiations de l'open data. Donc le logiciel libre, c'est un logiciel dont on peut inspecter le code, le redistribuer, le modifier. Et le logiciel libre avait établi les acteurs du logiciel libre avaient établi des principes. Alors il faut distinguer le logiciel libre qui va plutôt se concentrer sur les sujets de liberté, qui va avoir un discours plus politique, du mouvement de l'open source qui défend souvent les mêmes choses, mais avec un regard plutôt centré sur l'innovation, sur l'économie, sur aussi ce que toute la créativité que ça permet d'accéder au code source. Il y a eu des principes de l'open source qui ont été établis à une époque. Les principes de l'open data, les premiers principes de l'open data en ont découlé. Ils ont demandé, en fait, les principes de l'open data, la première version, c'était d'avoir accès aux données dans un format ouvert, dont on peut modifier, dont on peut accéder aux données. Et l'idée, c'était aussi de sortir d'une habitude qu'avait l'administration, c'est de nous envoyer des fichiers PDF avec des données dedans, dont on pouvait rien faire. Parce qu'en fait, si vous avez un tableau de données dans un PDF, on le voit souvent dans les rapports de la Cour des comptes, on peut pas les extraire, on peut pas refaire des calculs, et souvent on n'a pas accès à la base de données qui est derrière. Donc on a un tableau de données dont on peut rien faire. Donc très souvent l'administration nous envoyait des PDF et on pouvait rien en faire. Donc ils ont beaucoup insisté sur le fait d'avoir des formats ouverts, lisibles par les machines. Et le deuxième point, c'était d'avoir des licences ouvertes. Des licences qui... donc les licences, c'est un peu le cadre juridique de l'utilisation des données. J'aurais tendance à parler de réutilisation, parce que ces données-là, elles ont eu un usage avant. Les données qui sont mises en open data, c'est des données qui sont produites dans le cadre des missions de service public, qui sont des données souvent de gestion de l'administration, et qui sont mises à destination de tout le monde pour devenir un objet de savoir et de pouvoir. Et ces données-là, le fait d'avoir une licence ouverte, c'est très simple, c'est que en fait, ça permet une libre réutilisation. Alors, il y a certaines licences, je ne vais pas entrer dans le détail, qui sont plus inspirées par le mouvement des communs, où on va repartager.
On va en parler.
Voilà. Donc ça, c'était au départ les grands principes de l'open data. Moi, je pense que quand on parle des principes de l'open data, il y a une chose qu'on a tendance à oublier, c'est le fait d'accéder aux données dans leur plus grand niveau de précision. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir tout à fait un open data, je reprends toujours l'exemple des accidents de la route, où on a une base de données nationale, on sait juste le nombre d'accidents par an dans telle ou telle commune. Bah, l'idée de l'open data, c'est d'aller plus loin, c'est de remonter, d'avoir accès à la source, et ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur, qui est très intéressant, c'est d'accéder aux données sur chaque accident, dans le respect évidemment des données à caractère personnel, la protection des données qui est quand même très bien encadré en France et en Europe.
On en parlera aussi, bien entendu.
Voilà. Donc, le logiciel libre, c'est une des autres filiations du mouvement de l'open data. Et notamment, je finis sur ça, aussi le mouvement de la culture libre, qui est un peu un mouvement assez proche, qui découle lui aussi du logiciel libre. Qui a, et moi c'est aussi un peu mon historique, lutté contre, défendu l'époque du piratage, de la culture en ligne, Napster, toute cette époque-là. Moi c'est comme ça que je me suis fait ma culture, et je trouvais ça absolument absurde à l'époque d'Adopi de vouloir réprimer tant que ça, alors que moi en fait ça m'a fait ma culture musicale, et ça a fait qu'après j'ai dépensé beaucoup trop d'argent, tout mon argent d'étudiant, dans des concerts de groupes que je n'aurais jamais eu l'occasion de voir. Et donc en fait il y a un mouvement de la culture libre, pour revenir au sujet, mouvement de la culture libre qui défend l'accès à la culture dans l'affiliation de tout ce mouvement-là, du logiciel libre, et ça a donné notamment la naissance à des licences qui sont les licences Creative Commons, qui là aussi sont très en lien avec les licences de l'open data.
Et sur la science, donc on parle de science ouverte, donc qui découle aussi de l'ouverture des données de la recherche, donc c'est un élément important.
Ouais, parce qu'en fait on a tendance à l'oublier, l'idée d'open data, en fait elle est née dans la recherche. Elle est née dans des disciplines comme la botanique, la génomique, l'astronomie, des disciplines où on peut pas toujours, tout le monde ne peut pas collecter des données. Tous les chercheurs ne peuvent pas collecter des données, ça coûte cher, c'est compliqué, ou sinon faut s'échanger des données. Je prends par exemple accéder au génome d'une espèce. Le produire, ça a coûté extrêmement cher à une époque, ça coûte encore cher. Et donc, il y avait un intérêt à se partager les données sur le génome. Et donc, ils ont mis en place des infrastructures de données à une échelle internationale pour favoriser la collaboration. Et des disciplines, par exemple, comme la biodiversité ou l'étude du climat, des courants scientifiques, sont nés de l'échange de données à une grande échelle, et notamment l'émergence d'infrastructures de données pour se partager des données très volumineuses, très complexes, entre acteurs qui viennent parfois de certaines disciplines. Par exemple, étudier la biodiversité, ça demande des collaborations scientifiques énormes. Et donc, les grands principes de l'open data aussi découlent de ça. Il y a certaines idées, même. Et il y a ce mouvement de la science ouverte qui a émergé depuis à peu près une quinzaine d'années, qui vise à aussi donner une vision plus large. C'est-à-dire que dès lors qu'on partage à la fois les publications scientifiques, elles sont librement accessibles, donc il y a tout le mouvement de l'open access sur les publications scientifiques. Dès lors qu'on on partage aussi les données de la recherche, en fait, ça va transformer la science, et ça va faire une science qui est peut-être plus participative, une science qui va aussi, dans l'idée du mouvement de la science ouverte, il y a aussi l'idée de lutter contre les dérives de l'évaluation scientifique. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'ouverture des données de la recherche. C'est un mouvement maintenant qui aussi est entré dans la loi, qui est promu au niveau national, et qui d'une certaine manière transforme les pratiques scientifiques, et qui est directement lié à l'open data.
Et ça permet d'évoluer plus vite sur les recherches qui sont lancées par... Alors, il y a quelques textes importants. Moi, j'ai relevé la déclaration, des textes importants qui cadrent un petit peu ou qui favorisent plutôt cette ouverture. J'ai noté la déclaration de Berlin, les déclarations de l'OCDE. Donc, ces textes, ils sont arrivés comment, et est-ce qu'ils sont appliqués, respectés? Enfin, je sais pas.
Alors ça, c'est plutôt des textes sur la science ouverte.
Oui.
Donc, ils sont arrivés, comme toujours, en fait, hein, c'est un petit groupe de personnes qui les ont promus et qui sont arrivées à les faire adopter par des instances internationales. Donc là, c'est à la fois sur l'accès aux publications scientifiques et sur l'ouverture des données de la recherche. Maintenant, il y a un plan national pour la science ouverte en France, et à peu près tous les acteurs internationaux essayent de s'accorder sur des grands principes de la science ouverte, et progressivement, c'est en train d'infuser dans les universités et les laboratoires. Donc ça, c'est plutôt sur le côté science ouverte. Sur le côté open data, on va dire gouvernemental, donc plutôt des acteurs publics. C'est né aux alentours de 2007. Ça nous paraît loin maintenant, mais au moment de l'investiture d'Obama, de son entrée à la Maison Blanche, la première chose qu'il a fait, c'est de signer 3 memorandums sur l'Open Government Data. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais un d'entre eux, notamment, il a donné naissance à data.gov, qui est devenu le portail Open Data national des États-Unis. Et en France, maintenant, on a data.gouv.fr, qui est arrivé un ou deux ans après data.gov, qui est le portail national des données publiques françaises. Donc on a à la fois des données de l'État, mais aussi des collectivités locales et même de citoyens. Je pourrais vous raconter l'exemple de mon comité d'intérêt de quartier à Aix-en-Provence qui publie, bon, avec mon aide, des données sur data.gouv.fr sur le nombre de voitures dans une rue à un endroit, et ça a permis la piétonnisation de cette rue.
D'accord. Alors, on peut. Il y a deux points. Il y a d'une part, est-ce que du coup les données, ça fait partie des communs, ce qu'on appelle les communs. Bon, voilà. Et puis, il y a même trois points, puisque il y a la protection des données personnelles. Donc, vous avez bien dit plusieurs fois que c'était anonyme. Et du coup, la question de la gratuité, parce que les acteurs, on y reviendra après, parce qu'il y a une déclaration là avec au sujet d'Europe, et puis une déclaration du sommet de l'intelligence artificielle, justement, où il manque cette protection des données et de la des créateurs.
Alors, premier point, donc déjà par rapport au mouvement des communs. Moi, je rappelle, c'est les termes d'Elinor Ostrom. Hein. Il y a pas de commun sans communauté. La plupart des données qui sont en open data, on peut pas dire qu'ils sont gouvernés par une communauté, ce qui est quand même un des critères essentiels. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir une ressource partagée pour dire que c'est un commun. Un commun, il doit faire l'objet d'une gouvernance partagée par ses usagers. C'est le cas, par exemple, de la SCOP que j'ai cofondée. On est tous associés. À part égale, et on décide ensemble de notre outil, de l'avenir de notre outil de travail. C'est un exemple, mais il y en a plein, on les connaît. Donc un commun, il doit avoir une gouvernance partagée. Sur les données qui sont mises en open data, c'est rarissime qu'il y ait cette gouvernance qui soit partagée, dans lequel les usagers, les acteurs publics qui vont publier des données vont solliciter les usagers sur leurs besoins, faire évoluer les données en fonction des besoins des usagers. C'est extrêmement rare. Ce qu'il faut plutôt pointer, c'est les initiatives citoyennes, qu'on va appeler des communs de données, qui là sont vraiment, en plus ont un impact extraordinaire. Je vais en citer trois ou quatre. Le premier, c'est OpenStreetMap, qui est un peu le Wikipédia de la carte. C'est une carte que tout le monde peut éditer. Et c'est pas qu'une carte, en fait, c'est une base de données sur tous les éléments qui sont présents dans l'espace public. Et là, en fait, la manière de taguer les objets, chaque objet dans l'espace public va avoir des tags, va être décrit d'une certaine manière. Cette taxonomie, cette description, elle fait l'objet de débats au sein de la communauté. Et l'exemple que j'aime bien, c'est sur la cyclabilité. En fait, il suffit pas de dire il y a une piste cyclable ou il y a pas de piste cyclable. La cyclabilité, en fait, ça fait l'objet de 20 types de pistes cyclables qui sont déterminées par les usagers des pistes cyclables, qui vont donner des noms. Et en fait, l'expérience de la cyclabilité d'une ville, on est en région sud, donc on connaît bien le problème. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire qu'il y a une piste cyclable à tel endroit. Moi, je le vois très bien avec Aix-en-Provence qui annonce qu'il y a 100 km de pistes cyclables sur la commune. En vrai, une bande pas protégée sur une route où les voitures roulent à 80, moi, j'en ai rien à faire. Je préfère me mettre sur la route. Je préfère qu'il y ait une piste cyclable d'un certain type ou dans laquelle je vais me sentir protégé et dans laquelle je vais avoir vraiment envie de rouler à cet endroit-là. Ce que je veux dire là, c'est que c'est les usagers qui déterminent comment qui vont collecter les données, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer à OpenStreetMap, et qui vont déterminer comment ces données sont collectées, notamment les standards, les manières de décrire, font l'objet d'un débat et sont pensées entre à la fois les acteurs publics, qui ont leur mot à dire évidemment, et les usagers qui ont aussi leur mot à dire, les personnes qui sont concernées par ces données. Il pourrait parler aussi des questions de handicap, dans les standards de données. Les communs de données, je vais faire juste très rapide, en citer d'autres. Il y a par exemple, il y a Wikidata, qui est la version données structurées de Wikipédia. Il y a Tela Botanica dans la botanique. Il y a Open Food Fact, qui a donné naissance, qui est une base de données sur tous les éléments, tous les produits tous les produits qu'on a, qu'on consomme, tous les produits alimentaires. Donc, il va lister à la fois les ingrédients, les tableaux nutritionnels, tout ça sont mis en données par des milliers de contributeurs. Et ces contributeurs reversent ça et c'est réutilisé, ça crée plein de projets, ça a donné naissance au Nutri-Score quand même, c'est assez. En termes d'impact, c'est assez dingue. Ça a donné naissance à des applications qui permettent de calculer plein de choses. Donc, on connaît On connaît bien Yuka, mais Open Food Fact a son application qui s'appuie sur plein de manières de décrire internationales, comme par exemple on a le Nova sur les produits ultra transformés, donc des projets scientifiques qui étudient les produits alimentaires. Et donc ça, c'est des projets qui ont un impact extraordinaire. Je finis sur les deux points, la protection des données à caractère personnel. Pour les auditeurs, il faut avoir en tête que en open data, de manière générale, il y a très peu de données à caractère personnel. Les quelques cas, ils sont très encadrés par la loi. Bah, c'est savoir qui sont les élus, par exemple. C'est des choses qui sont très, très encadrées. Et la gratuité, le principe, c'est d'avoir un accès gratuit aux données pour limiter les barrières à l'entrée. Et ça a permis le mouvement de l'open data a fait disparaître plein de redevances. Il y en avait à l'INSEE, il y en avait à l'IGN, qui maintenant est totalement en open data. Maintenant, il y a Météo France. Donc, ça a mis du temps, mais on y arrive. Et en fait, les questions qui se posent actuellement sur l'IA, c'est plus qu'en fait, on fait face, et j'en parle beaucoup dans le livre, à un pillage des communs, mais plus largement de tout le web, et y compris de certaines choses qui sont protégées par le droit d'auteur ou la protection des données à caractère personnel. Et notamment, y a plein d'auteurs qui se sont vent debout, de créateurs qui sont vent debout parce que c'est un véritable pillage qui est en train de se passer. Donc, et pour des fois, ils ne sont jamais rémunérés. Donc c'est un sujet qui est un peu annexe des questions de l'open data, mais qui est évidemment très présent, cette question du piège.
Oui, c'est plus, on va en parler après aussi, dans l'intelligence artificielle. Enfin maintenant, on met ce nom partout. Voilà. Alors, nous nous retrouvons pour un alter regard sur les données de la démocratie avec Samuel Goeta. Je peux vous demander pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Tout simplement parce que je parlais de la culture libre et Valère, c'est un groupe québécois qui partage en ligne toute sa musique. Et donc, je trouve que c'est finalement trop rare, gratuitement. Et je crois qu'ils publient aussi en Creative Commons certains de leurs morceaux. Donc, c'est pour ça que je les ai mis.
Voilà. Alors, en fait, vous dites qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle qui prône une ouverture exhaustive, tout. Et puis, il y a un modèle qui dit on va ouvrir que les données essentielles. Et moi, la question que je me pose, c'est qui va décider ce qui est essentiel? C'est là la démocratie qui va être en jeu.
Ouais. Et cette tension, elle existe depuis très longtemps. Elle existe même quand la loi CADA a été adoptée. Donc, ils voulaient au début avoir une liste des documents qui étaient communicables à tout le monde. Ils se sont rendus compte, la commission qui avait fait ça, la commission Ordonneau dans les années 70, s'est rendu compte qu'en fait, c'était impossible. Et ce qui est arrivé au moment de la loi pour une République numérique, alors j'en ai pas trop parlé jusque-là, c'est que donc c'est la loi qui a été portée par Axel Lemaire, qui a fait la préface du livre, qui fixe un principe d'open data par défaut dans la loi. Et l'idée, c'est donc que l'ouverture devient la norme plutôt que l'exception. Et en fait, il y a eu des débats et il y a certains acteurs qui nous disent faudrait publier que certaines données qui sont particulièrement, qui ont un fort impact, qui sont hyper importantes. Ce que dit Axel Lemaire dans la préface et ce que je dis aussi dans le livre, on est très alignés, c'est que, en fait, essayer de délimiter quelles données devraient être publiées ou pas, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, on ne peut pas présumer en amont de quel va être l'usage de certaines données. Et il y a des données, on est surpris de voir l'usage. Je donne un exemple. Quand les premières politiques d'open data ont été lancées, c'était notamment à la ville de Rennes. La ville de Rennes s'est rendue compte qu'il y avait un intérêt à publier la hauteur des trottoirs. Alors évidemment, comme ça, on se dit pourquoi. Sauf si on est en fauteuil roulant. En fait, pour les personnes handicapées, savoir où sont les soubassements de trottoirs pour pouvoir passer en fauteuil roulant, c'est extrêmement utile. Ça, évidemment, si vous n'êtes pas concerné, vous ne pouvez pas penser que cette donnée-là, elle a beaucoup de valeur. Et donc, en fait, c'est très difficile de le prévoir en amont. Donc là, ce qui essaye de se faire, c'est quand même de mettre en place certaines normes sur certaines données dont on sait qu'elles ont un grand impact. Je pense par exemple aux horaires de transport. Les horaires de transport, voilà, on sait que ça a plein d'usages. Vous voyez, par exemple, dans l'application SNCF Connect, vous avez maintenant les transports en commun, vous avez ça dans Google Maps, dans Apple Maps, dans Transit City Mapper. Donc là, il y a des normes qui se mettent pour décrire, avoir des manières de décrire communes pour que toutes les applications, tous les services qui vont utiliser certaines données, ben, s'appuient sur les mêmes manières de faire. Parce que sinon, en fait, c'est impossible de les utiliser si chacun a sa manière de décrire les horaires de transport, les menus des cantines ou plein de sujets. Donc c'est ce qui se passe sur est-ce qu'il faut une ouverture des données exhaustives ou des données essentielles. Je pense que c'est les deux au final. Il faut avoir un principe. Il y a un principe d'open data par défaut. Il faut quand même délimiter certaines données sur lesquelles on veut avoir des normes de description et des manières de publier, des fréquences de publication s'accorder. Et donc là, la question des standards est très importante. Et vous parlez de l'importance démocratique. Je pense qu'il y a un sujet démocratique très important, c'est d'entrer dans le détail de ces standards et qu'ils fassent l'objet d'une gouvernance partagée. Ces standards de données-là, alors peut-être pour les auditeurs, ça paraît ultra chiant ce que je suis en train de raconter, sauf que ça a des conséquences politiques. Je donne un exemple dans le livre sur lequel je reviens beaucoup et qui m'énerve beaucoup, c'est l'ouverture des données des marchés publics. Il y a eu notamment l'affaire McKinsey dont on a beaucoup parlé. L'affaire McKinsey, pour avoir échangé avec la journaliste Elisa Brown qui a révélé ça à Politico, elle nous avait appelé parce qu'elle ne trouvait pas dans les données. Elle avait l'info qu'il y avait des marchés publics, mais elle voulait savoir attribuer à McKinsey pour la gestion de la campagne de vaccination. Mais en fait, il n'y avait pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'en fait, c'est un décret qui a été publié. Alors, il y a eu l'objet d'une concertation. Bercy avait fait quand même une forme de concertation, mais plutôt avec des usagers très techniques et pas du tout en pensant... les journalistes ne sont pas forcément investis sur cette question-là. Et bien, en fait, c'est que les marchés de plus de 40 000 euros et ça exclut tous les bons de commande. McKinsey, comme beaucoup de grands acteurs du conseil, ils ont des accords cadres. Les accords cadres, c'est un gros marché auquel chacun va pouvoir piocher et on émet des bons de commande à chaque fois qu'ils ont... Donc quand il y a eu la campagne de vaccination, c'était juste un bon de commande. Sauf que manque de bol, les bons de commande ne sont pas publiés en open data et on ne sait pas. Et si on avait accès aux bons de commande, on aurait des informations extrêmement importantes sur tout un pan de la commande publique dont on ne sait pas ce qui se passe. Notamment, je pense aux groupements d'achat. Les groupements d'achat, c'est énorme. C'est des centaines de milliards d'euros qui sont à côté du monde. Alors, c'est pas totalement à côté, d'un point de vue du droit, c'est même tout à fait légal et encadré et tout ça. Sauf que du point de vue de la transparence, on sait pas vraiment qu'est-ce qui est émis ou où va l'argent dans ces trucs-là. Donc, c'est un exemple juste de... Il faut prêter attention à ces standards-là parce que ça va limiter notre pouvoir politique.
Oui, c'est ce que vous dites. On s'est plutôt axé sur l'aspect technique que sur l'aspect politique. Là, on est vraiment sur l'aspect politique. Quelle volonté politique de donner l'information.
Ouais, aussi parce que c'est pas évident hein, de parler de données tout de suite. On se dit bon, c'est pas pour moi en fait. C'est aussi tout l'intérêt du mouvement de la data literacy qui est de dire non en fait, ces données elles ont des effets sur nous, elles s'imposent à nous, elles ont des effets sur le débat public et donc on doit pouvoir comprendre comment elles sont produites, qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi on peut accéder. Et derrière, en fait, on touche à des sujets qui sont importants pour le débat public, quoi.
Alors, vous avez un petit peu abordé, mais je voudrais qu'on revienne sur l'aspect de la régulation. Parce que là, vous avez dit la régulation de données, de la forme de la donnée, en fait, vous étiez là-dessus. Mais il n'y a pas que ça comme en termes de régulation. Donc, en France, il y a des textes qui régulent un petit peu tout ça, et au niveau européen aussi. Donc, je voudrais bien revenir un peu là-dessus pour nos auditeurs.
Donc, en France, la loi à retenir, c'est la loi pour une République numérique, donc qui fixe un principe d'ouverture des données par défaut. Donc, c'est l'ouverture devient la norme plutôt que l'exception. Pour tous les acteurs publics qui ont plus de 50 agents, donc ça peut être... les collectivités locales de plus de 3500 habitants. Les deux règles sont cumulatives. Donc, ça fait 4000 collectivités locales qui sont concernées. Ce que montre l'Observatoire Open Data des territoires de l'association Open Data France, c'est qu'on est encore très loin. Il y en a plein qui ne sont pas du tout investis de ça. On en reparle après. Donc, on est encore très, très loin. Au niveau européen, il y a un certain nombre de règles et de normes sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui sont en fait la loi française... les a déjà devancés. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est quand même l'impact du RGPD là-dedans, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui quand même régule et qui s'inscrit dans la continuité de la loi française, ce qui fait qu'en open data, on ne peut pas publier de données à caractère personnel, et donc il y a quand même un cadre qui est très protecteur, à l'inverse des États-Unis, où on peut se retrouver en open data avec, par exemple, tous les donateurs à un parti politique. Ce qui, en soi, peut paraître bien, mais en fait, sauf que quand on a donné à une époque dans un parti, on est après catégorisé, parce que c'est librement réutilisable, on est catégorisé politiquement, et ces données sont réutilisées très largement. Mais on a aussi des choses sur dès que quelqu'un est mis en examen ou arrêté, tout simplement, sa photo est publiée en open data, et elle reste en ligne pendant très longtemps et elle est associée au nom. Donc il y a vraiment, on a la chance en Europe d'avoir un cadre qui est quand même très protecteur.
Alors, et le rapport Villani proposé, il a servi de base à cette loi ou parce qu'on a parlé beaucoup de Villani
Elle est arrivée après la loi pour une République numérique, donc il n'a pas trop joué.
Il n'a pas participé. Alors, vous citez Etalab. C'est pour nos auditeurs, ça peut être un outil.
Alors, Etalab, c'est la mission interministérielle en charge de l'open data, qui est moins active en ce moment. Moi, je dirais aux auditeurs de surtout aller regarder. Même par curiosité, même si on n'est pas technicien du tout, d'aller jeter un œil à data.gouv.fr parce que c'est quand même un site extraordinaire et on a de la chance et je salue les gens qui sont derrière ce site parce qu'ils font un boulot extraordinaire. On a un portail open data national dans lequel il y a quand même 40 000 jeux de données. Alors évidemment, ça peut être énorme, mais sur certains sujets, on a accès à des données d'un niveau de précision et on peut y passer des heures et c'est incroyable tout ce qu'on peut y trouver. Sur plein de sujets et en plus l'équipe fait un effort vraiment pour donner accès au plus grand nombre à ces données là alors ça passe par des petits explorateurs de données, enfin je dis petit en fait derrière c'est un boulot énorme de faire ça, donc on a accès à plein de choses, à la fois au niveau local, puisqu'en fait il y a plein de collectivités locales qui publient, on est à Antibes, Antibes fait un boulot super sur l'open data, il y a une équipe qui est vraiment très très bien, qui est vraiment parfois précurseur sur certains sujets en France, je pense par exemple à la transparence des algorithmes, on a accès à des données donc au niveau local, on a accès à des données aussi nationales de certains ministères, agences ministérielles, on a par exemple accès à la base nationale des diagnostics de performance énergétique. Ça, c'est génial. On peut avoir sur chaque habitation, peut avoir le diagnostic de performance énergétique avec des informations sur la date de construction du bâtiment. Ça permet de voir l'évolution de la performance énergétique à une échelle parfois micro-locale. Évidemment, l'exemple que je donne le plus souvent et que moi j'utilise, c'est les données de valeur foncière. Alors, c'est pas très parlant comme ça, mais en fait, c'est les prix de l'immobilier. On peut avoir sur chaque vente d'un bien immobilier, on a l'adresse, on a le prix de vente. Et ça, très concrètement, moi, ça m'a servi quand j'ai acheté mon appartement pour faire une offre et pouvoir savoir qu'est-ce qui était le bon prix. Et il y a plein de services, notamment Meilleurs Agents, qui aident à faire évoluer, à choisir le prix. Donc, il y a plein d'usages derrière ces données-là.
Alors, un point, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, j'ai dit on y revient, on a eu donc des textes, une directive européenne, tout ça, concrètement, où on en est? Vous dites on est en demi-teinte, donc on n'a pas la transparence, en demi-teinte, y en a qui disent c'est une machine à scandale, parce qu'il y en a qui exploitent ces données, où on en est? On a beaucoup parlé aussi de création d'emplois, on fait pareil maintenant sur l'intelligence artificielle, bon, de création d'emplois, c'est une réalité, un leurre, voilà.
Donc la troisième partie du livre, la deuxième partie, pardon, elle revient sur les trois grandes promesses de l'open data. La première promesse, c'est celle de transparence. Donc c'est que ça permettrait de renouveler la transparence, de transformer... les rapports politiques. La deuxième, c'est celle que ça créerait plein d'innovations et que ça créerait plein d'emplois. Et la troisième, c'est la modernisation, c'est que ça transformerait le fonctionnement de l'administration. Donc si on prend ces trois promesses, la première, celle de transparence, moi je pense qu'il y a un bilan en demi-teinte. Et ce bilan, il est dû aussi au fait que les réflexes administratifs, les circuits administratifs de la transparence ne sont pas en place dans les administrations françaises. Le droit d'accès, ce que j'étudie et sur lequel je milite particulièrement, fonctionne très mal. C'est une loi quand même qui date de 1978. Et en fait, depuis, c'est une loi qui fonctionne quand même très très mal. Sur madada.fr, malgré tous nos efforts, on n'a que 20% des demandes qui aboutissent. Donc 80% et l'immense majorité de ces 80% des demandes n'aboutissent pas, souvent parce que l'administration ne répond pas, soit parce qu'elle n'a pas les moyens, n'a pas le temps ou ne veut pas répondre, et parfois aussi tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment répondre et ils n'ont pas ce réflexe là. Quand on fait des comparaisons internationales, par exemple au Royaume-Uni ou même dans un pays comme le Brésil, en fait, il y a des équipes en place, ils sont juste en charge du droit d'accès. C'est considéré comme un pilier. Aux États-Unis aussi, c'est considéré comme un pilier de la vie publique. Là, on en parle beaucoup avec Trump du droit d'accès, et c'est vraiment un contre-pouvoir fort. En France, c'est connu d'une minorité de journalistes, de chercheurs et de militants. Les administrations savent pas comment les traiter, ou parfois, en fait, c'est une sorte d'acte du maire qui accepte de donner accès à un document, à la liste des subventions, qui devrait être quelque chose qu'on devrait savoir et qui est dans les délibérations par ailleurs.
C'est obligatoire, la liste des subventions.
Mais l'open data aussi, c'est obligatoire. Mais ils veulent pas forcément l'entendre. Donc en fait, c'est souvent une sorte d'exception, et ce qui fait qu'en fait, si on interroge des journalistes, ils regardent les données en open data, et très souvent, c'est des données qu'on va qualifier, c'est un journaliste qui m'a dit ça, qui sont des données inoffensives. Ils ont du mal à révéler, à montrer des choses. Par contre, ça permet de montrer des choses très intéressantes sur le contexte, voire de monter des enquêtes. J'explique par exemple que l'affaire Fillon, elle est un peu née de l'open data. On a souvent pensé qu'il y avait une sorte de taupe au sein des Républicains pour l'affaire Fillon. En vrai, c'est juste dans la déclaration à la HATVP de François Fillon, il y avait écrit que Pénélope Fillon travaillait à la Revue des Deux Mondes. On n'a jamais vu un seul article. Les journalistes du Canard Enchaîné sont partis de cette piste-là. Ils ont continué, ils ont tiré la pelote et ils ont trouvé quelque chose d'assez gros. Voilà, ça c'est le bilan sur la transparence. Donc un bilan quand même en demi-teinte parce que les réflexes de la transparence sont pas du tout en place. Et en plus, je dirais qu'on a un peu tendance à... Comme la France est en tête des classements de l'open data, et c'est vrai, parce que si vous regardez sur data.gouv.fr, il se passe plein de choses et tout, on a un peu tendance à se dire, bon, ça va, en France, on a une démocratie qui va bien. Mais en fait, quand vous regardez dans le détail du droit d'accès, c'est assez catastrophique, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Donc le deuxième point, c'est sur l'innovation. Moi, ce que j'explique, c'est qu'il y a des promesses qui ont été faites, notamment par des grands cabinets de conseil qui ont fait des estimations que ça rapporterait 1, 2, 3% de PIB si on ouvrait les données. Là, là. Mais alors, on savait plus de quoi en parler. Hein. Franchement, quand vous regardez, j'ai fait une analyse de la méthodologie de ces rapports-là. C'est du grand n'importe quoi. Le problème, c'est que certains élus ont décidé d'ouvrir des données en regardant ces rapports, ces études, en disant que ça va créer des emplois localement. Bah, en fait, c'est pas parce que vous ouvrez des données à un endroit que les emplois vont être créés à cet endroit-là. Enfin, on n'a pas besoin de. Et donc, globalement, ça a créé des désillusions de certains élus qui se sont vraiment engagés en faveur de l'open data pour cette raison-là. Ça a quand même créé un certain nombre de fleurons en France. En Situka, par exemple, c'est une entreprise internationale. Open Food Fact, même si c'est une association, c'est quand même là aussi un mouvement international qui est énorme. On a certains acteurs comme Namur sur les données des bâtiments. C'est une référence internationale. On a quand même pas mal de cas comme ça où ça a créé des entreprises assez fortes et qui sont des références internationales. Et après, la dernière promesse, c'est sur la transformation des administrations. Et moi, je montre en fait que c'est le bilan, l'impact le plus immédiat. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir des données, ça fait que les collectivités, les administrations sont posées des questions qu'elles ne se posaient pas forcément sur connaître leurs données, reprendre la souveraineté sur les données qui sont produites, notamment avec leurs délégataires. Moi, mon sujet fétiche, vous l'aurez compris, c'est les marchés publics. Il y a certaines plateformes de marchés publics qui verrouillent complètement l'accès aux données, même pour la collectivité elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas récupérer les données des marchés. Quand il a fallu les mettre en open data, il a fallu négocier avec certains opérateurs de marché public, certains, pas de problème, sur les opérateurs de plateforme, d'autres, il fallait payer pour accéder aux propres données de la collectivité. Donc en fait, ça les a mis face à leur dépendance à certains acteurs qui ne voulaient pas jouer le jeu de l'open data, et ça a posé des questions qui sont très utiles pour plus largement développer une stratégie data. Parce que, en fait, c'est aussi le sujet de la donnée, j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est évidemment quand même un sujet de fonctionnement du service public, et que les données sont au cœur du fonctionnement des administrations, et que du coup, se poser des questions d'ouverture de données, c'est se poser des questions sur la stratégie de données, et ça a fait avancer plein de choses très utiles sur les services qu'on rend aux citoyens, sur la manière dont fonctionne la collectivité, sur plein de choses très utiles, et ça a eu un impact déjà très fort sur le fonctionnement aussi entre les services, le fait d'accéder à telle ou telle donnée, découvrir qu'en fait, on a 4 bases dans certaines régions, 4 bases qui listent les lycées, et il y en a qui disparaissent, qui ont des noms différents, des choses comme ça. Ça peut paraître anodin, mais en fait, dans le fonctionnement, dans les rouages de l'administration, c'est hyper utile ces questions qui sont posées.
Non, c'est la vie qui veut ça. Et sincèrement, je serais pas. C'est sûr, en aucun cas, grand commis d'état. Je roule en balle et là, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens pas que ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi et pour moi. L'exclusion, c'est aussi simple que ça. C'est rien que du direct live et les choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères. Le peuple subira. Le vent contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout temps. Pour les problèmes latents, tant ignorer. Sauf quand faut se faire réélire. Mais attends, y'a pire. Si t'attends le réveil des foules, c'est du conspire. On nous tient à la gorge par le biais de grands. C'est comme ça que subsiste l'attentisme en France dans ce pays où on laisse passer l'intolérance sans se masser pour contrer les suppôts des survivants du passé.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner,
afin de changer les données. Lutte sans le coin, le plan, le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner,
afin de changer les données. Lutte sans le coin, le clock, le bloc va détonner.
Péri, Babylone m'étreint. J'ai des péripomés à me demander où est le bon chemin. J'suis pas le seul dans ce cas à vivre en astreinte. On est tout interprète chez moi à vouloir porter plainte. La populo demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, le FN monte. Qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. Donner et l'effet de serre les auront à l'usure. Trilon, ça ne s'efface pas si sûr et non. Y'a trop de NTM pas sur les murs. Bloc par bloc, les cités des blocs. Le lascar moyen vide de troc. Chasse le gaz, puis il débloque. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard. Place au jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes barres. Survie au plus, c'est un système barbare.
On ne va pas colmater la fracture sociale de plat de fuite. Encore plus qu'en 68, va falloir se battre.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Plus sans le coin, le plan, le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Plus sans le coin, le bloc va détonner.
Bonsoir, nous retrouvons donc avec Samuel Goeta pour parler d'Open Data. D'abord, le morceau, la musique que vous avez choisie. Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Alors, je pense que si les gens écoutaient le refrain, ils verront le lien. Donc, c'est arrivé près de chez toi, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner afin de changer les données. Je le dis rapidement, c'est quand j'ai écrit la conclusion du livre, mon éditeur il me fait ouais, mais faut que tu finisses sur une date positive, un truc comme ça. Et je me suis rappelé de ce morceau de NTM, là, c'est arrivé près de chez toi. Faut tout donner afin de changer les données. Et je trouvais qu'en fait, c'est, si j'écris ce livre, si des gens travaillent sur ces questions d'open data, alors pas sur plein de raisons, mais une des raisons, moi, qui m'anime le plus, c'est que on publie pas des données juste pour comme ça, pour la beauté du geste. C'est que, à terme, bah, créer un changement social et que ça change les données. Et que ça change, j'aurais aimé avoir cette idée-là au moment où j'ai écrit la conclusion. Malheureusement, elle m'est venue après. C'est que ça change la donne, en fait. C'est le début de la conclusion du livre.
Alors, vous faites des propositions en termes de stratégie alternative, et puis après, vous avez des pistes d'action. Donc,
En fait, il y a un chapitre, c'est d'expliquer que dans plein d'endroits, dans plein de situations, en fait, il n'y a pas de données en open data, et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait dans ces cas-là ? Ce que je montre à travers pas mal d'exemples, plutôt de la société civile, c'est 5 stratégies alternatives quand on n'a pas de données sur un sujet. La première, c'est évidemment de recourir au droit d'accès, qui est un droit puissant, et en plus, on facilite énormément les choses sur madada.fr. On a par exemple des fonctionnalités pour les associations, pour demander à plusieurs collectivités en même temps le même document. Ça a permis par exemple au Secours catholique et à Equitas de montrer comment ça varie d'un département à l'autre, les sanctions au RSA, avec vraiment des politiques qui sont parfois... extrêmement répressive dans certains départements. La deuxième, donc, c'est d'aller trouver les données qui sont publiées sur le web, ce qu'on appelle scraper, donc d'avoir des petits robots qui vont extraire certaines données. Par exemple, il y a la CIMAD qui va collecter les temps pour avoir un rendez-vous pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile, et plus largement toutes les personnes qui ont des démarches liées à l'immigration. Il montre que très souvent, les personnes ne peuvent même pas respecter la loi, parce qu'en fait, juste obtenir le rendez-vous, ça les met, ça met leur visa hors, c'est tellement long. Et donc, en fait, ils publient ça, ils ont extrait les données, ils les publient en open data, ils permettent même aux personnes qui font les démarches de télécharger un graphique pour pouvoir prouver à l'administration qu'ils ne pouvaient pas avoir un rendez-vous dans les temps et être dans le cadre des règles. C'est particulièrement intéressant. Je montre aussi comment le ministère de l'Intérieur a essayé à plusieurs reprises de les bloquer. Ensuite, y a tout ce qu'on peut faire, c'est aussi on n'a pas forcément une base de données qui est en open data, mais on peut rassembler des informations qui sont publiées de manière éparse sur le web. Je donne l'exemple, par exemple, des aides à la presse. Il y a le syndicat de la presse indépendante en ligne que j'avais accompagné, qui avait pris un bout de rapport de la Cour des comptes, un bout d'un jaune budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances, un bout d'un rapport du ministère de la Culture, et ils ont constitué une base exhaustive pour avoir une vision d'ensemble des données sur les aides à la presse. Et ce qui est intéressant dans cette stratégie-là, c'est que si l'administration vous dit « Non, mais là, vos données, elles sont pas bonnes », vous pouvez leur dire « J'ai pris ce que j'ai trouvé. Si vous avez des données, mettez-les à disposition. Comme ça, on verra quelles sont les bonnes données. » C'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. On peut aussi faire appel à une foule de contributeurs. Moi, j'ai travaillé avec Greenpeace à un moment sur la question des menus des cantines, et notamment dans le cadre des états généraux de l'alimentation, pour pousser l'obligation d'un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires. C'est une stratégie qui a très bien fonctionné, parce qu'en fait, on a fait appel à 12 000 bénévoles de Greenpeace qui ont regardé les menus des cantines et qui nous ont entré des données très précises. Et ça a permis de voir dans chacune des communes en France est-ce qu'il y avait un menu végétarien ou pas par semaine. Ça a permis de montrer que avant les états généraux de l'alimentation, à peu près 80% des cantines scolaires avaient de la viande ou du poisson à tous les repas. Absolument tous les repas, il n'y avait jamais une alternative végétarienne. Et ça a servi aussi après la loi, maintenant que l'obligation d'un menu végétarien dans les cantines, de vérifier où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de ce principe-là. Et donc ça fonctionne extrêmement bien de faire appel à une foule de contributeurs. La dernière piste, c'est celle dont je parlais, c'est celle des communs de données. Par exemple, ce qu'a fait Open Food Fact sur les produits alimentaires ou OpenStreetMap.
Sur le vélo, dans la CASA, donc ici, c'est une association Choisir le vélo qui a des tas de contributeurs, donc c'est un peu cette idée-là, et qui amène donc les informations de tous les cyclistes de l'agglo pour alimenter et pour faire évoluer les pistes cyclables, puisque vous avez l'air sensible aux pistes cyclables. On est bien sur cette idée-là. Ouais. Mais comment ça devient du commun? Tout à l'heure, vous avez un peu expliqué, on peut reprendre toutes ces données, comment ça devient du commun, en fait?
Alors, prenons le cas des pistes cyclables. Beaucoup d'associations cyclistes font plein d'actions en fait, de collecte de données. Et moi, je trouve que c'est un message d'espoir et aussi un message pour toutes les personnes qui se disent « c'est pas pour moi » et tout ça. En fait, ce que montrent d'ailleurs les chercheurs qui ont travaillé sur les questions de participation citoyenne, c'est que les gens, dès lors qu'ils sont concernés par un sujet, ils sont capables de surmonter la technicité de certaines questions. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir un ami qui connaît ces questions-là. Mais par exemple, les associations cyclistes, il y en a plein qui font du comptage, qui font leur propre comptage pour peser, pour dire il nous faut des aménagements, il faut des arceaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc que font la plupart des associations cyclistes. Elles utilisent aussi énormément OpenStreetMap. Par exemple, à Aix-en-Provence, la DAVA, qui est l'association droit au vélo, collecte les données sur les pistes cyclables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand la ville publie une carte des aménagements cyclables, ils utilisent les données d'OpenStreetMap, parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes données. Et en fait, ces données-là, elles sont fiables. Et ça se fait aussi en concertation avec la ville. Et ça permet à la fois d'avoir une vision objectif de où on en est des aménagements cyclables, et ça permet aussi de faire du plaidoyer. Et un dernier point, c'est prendre un exemple là aussi de la société civile, c'est le baromètre des villes cyclables. Le baromètre des villes cyclables, c'est la fédération des associations qui défendent le vélo, la FUB, qui le porte. Et en fait, c'est pour avoir une base de données nationale la plus exhaustive possible, où on va demander aux usagers du vélo, comment ils se sentent, quel est le niveau de cyclabilité de leur commune, et d'avoir des informations sur quelles difficultés ils rencontrent, est-ce que les aménagements cyclables sont bons, et aussi de pouvoir pointer à la collectivité, dans une base de données nationale, les endroits qui sont les plus qui rendent le plus de difficultés aux cyclistes. Et c'est un exemple d'impact qui est énorme, parce que ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est aussi que pendant une période, ces données du baromètre des villes cyclables, elles étaient produites avec des associations, et le ministère de l'écologie s'appuyait sur ces données-là pour fixer des objectifs au niveau national. Et donc ça a quand même un travail de construction entre pouvoir et contre-pouvoir qui, moi, je trouve, est le genre de choses que j'ai envie de pousser, quoi. C'est-à-dire le point de départ du livre, c'est quand même de dire cette vieille idée-là que le pouvoir a besoin du contre-pouvoir pour que la démocratie fonctionne. C'est un truc que moi j'ai envie de défendre, et notamment sur les questions de données.
Alors, rapidement, vous parlez aussi de donner des pistes d'action, donc ça c'est vraiment l'action qui peut être immédiate.
Alors, dans les pistes d'action, il faut que le droit d'accès fonctionne. C'est, je pense, le point de départ. Moi, je présente l'open data en France comme la tour de Pise. La tour de Pise, elle penche parce qu'en fait, ses fondations sont instables. Alors, pourquoi je donne la tour de Pise? Parce qu'en fait, on est en tête des classements. On est quand même un pays qui, en matière d'open data, est assez exemplaire. Donc, ça attire les visiteurs du monde entier comme la tour de Pise, mais elle penche parce qu'en fait, le droit d'accès fonctionne mal. Donc, dans les pistes d'action, il faut l'utiliser, ce droit, pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire que si on continue à avoir peu de citoyens qui l'utilisent, ça va pas bien marcher. Il faut aussi que les agents publics se saisissent de ce droit et comprennent que c'est un des piliers du code des relations entre le public et l'administration. Et dans les pistes, j'évoque aussi le fait de développer une culture critique des données et de développer la data littératie. Il y a plein d'actions que je propose. Par exemple, ça peut être commencé par aussi dans les médiathèques. Une médiathèque, elle propose plein de choses. Pourquoi elle ne proposerait pas d'accéder à certaines données, voire qu'il pourrait y avoir un rayon donné, il pourrait y avoir des actions de médiation sur la question des données, parce qu'en fait, derrière, on touche à des sujets très concrets de vie quotidienne, de vie publique, qui auraient tout à fait leur place dans les médiathèques.
Eh bien, merci Samuel. Alors, on rappelle d'abord le livre « Les données de la démocratie, Open Data, pouvoir et contre-pouvoir » chez CEF Éditions. Vous avez cité tout à l'heure donc, la coopérative
Data Activiste.
Il y a une association.
Open Knowledge France, donc qui porte madada.fr.
D'accord, oui, le site madada.fr. Et vous pourrez réentendre Samuel Goeta le 24 mars à 21h. Merci beaucoup d'avoir participé à mon émission.